L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.
Bonsoir. Alors, à moins de vivre sur Mars, nous avons tous vu au moins une fois l'image de ces Juifs entassés dans un bus parisien lors de la rafle du Veldiv en juillet 1942. Et c'est de ces bus, justement, dont nous allons parler ce soir avec mes invités Jean-Marie Dubois et Malka Markovitch, qui viennent de publier « Les bus de la honte » chez Talendier. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous êtes tous les deux historiens avec des parcours assez différents, historiens d'art même. Vous, Jean-Marie, vous êtes spécialisé dans le cubisme, l'architecture, le design. Vous, Malka, vous êtes aussi historienne d'art également et vous avez un parcours tous les deux très riche que je ne peux absolument pas résumer là. Mais vous, Malka, entre le musée de la diaspora de Tel Aviv, vos travaux avec Simone Schwarzbart pour l'encyclopédie sur la femme noire, vous êtes consultante pour le droit des femmes au niveau international, vous avez énormément publié et vous avez créé ensemble Palmyre, une organisation pour la promotion culturelle. Et peut-être qu'un jour, on fera une émission autour de ça.
Parce que je trouve ça... Ce serait formidable, oui. Hein,
on va essayer de faire ça à la rentrée. Bon, alors on va commencer par ce livre. Alors ce livre, je l'ai lu comme un polar, comme une recherche à la Sherlock Holmes. Parce que vous, Jean-Marie, vous avez un grand-père qui va être l'objet de ce livre, le sujet de ce livre. C'est votre grand-père, hein, c'est ça?
C'est mon grand-père.
Alors,
c'est
racontez-nous,
le père de ma mère.
Alors racontez-nous. Comment est-ce qu'on trouve une histoire assez horrible en même temps?
Une histoire horrible qui a priori commençait très bien. C'est un grand-père que je n'ai pas connu, qui était totalement...
Pépé pour tout le monde.
Voilà, voilà. Je n'ai pas connu, qui était totalement mythifié, qui était ce grand militaire, qui était l'ami du général de Gaulle, qui a publié des dizaines de livres, des préfaces de Machiavel, de Clausewitz, enfin voilà, qui avait comme ça une image merveilleuse dans mon esprit, et surtout le fait que je ne l'ai pas connu. Et avec Malka...
Alors, qui est votre compagne dans la vie, hein,
en
disons-le.
Plus, voilà. Voilà. en plus, et surtout.
C'est ça qui est intéressant, on le verra plus tard.
Voilà. Et voilà, donc par le hasard de l'enterrement d'un cousin germain, donc nous avions donc le même grand-père, et ce cousin, lui, a connu ce grand-père. Et pendant cet enterrement, le nom de ce grand-père revient sans cesse dans des discours d'hommage, alors qu'on...
Lucien Nachin.
Oui, on n'a voilà. même pas dit son nom, il s'appelle voilà. Lucien Nachin.
Il a un nom et il est dans toutes les... On le trouve sur le site de la Fondation Charles de Gaulle. Et
voilà,
partout,
il est présent dans toutes les biographies.
Toutes les biographies de De Gaulle parlent de Lucien Nachin comme un personnage central de Gaulle.
Je l'ai wikipédié, c'est exactement ce que vous dites.
Donc c'est assez impressionnant. Donc je suis resté dans cette image-là. Et donc, après avoir découvert, donc en fait, on a commencé nos recherches tout simplement par Internet. Et c'est le mystère des secrets de famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur lesquels on ne se pose pas de questions. Je ne suis jamais posé de questions sur ce grand-père mythifié.
Mais à quel moment, justement, vous vous posez la question?
Et bien, à la suite de cet enterrement, on se dit... Pourquoi est-ce que mon cousin tenait absolument, et la famille donc de mon cousin tenait absolument à le mettre en avant de cette manière beaucoup trop importante?
D'accord.
C'est-à-dire que
durant cette... Si je me permets d'interrompre, c'est un livre écrit à quatre mains, donc on passe notre temps à discutailler.
C'est ça, c'est un ping-pong,
voilà,
très bien.
Voilà,
je me mêle au ping-pong, si vous permettez.
Voilà, c'est un ping-pong. Oui. Et donc, effectivement, ce qui nous impressionnait, c'est qu'on ne parlait pas du cousin, c'est qu'on parlait de Lucien Nachin. C'est-à-dire que tout l'enterrement était autour d'une figure, d'un homme qui était mort 60 ans avant, et comme si c'était... Voilà, une espèce de grand hommage républicain au Père Lachaise autour de ce personnage qu'avait connu le général de Gaulle. Et c'est ça qui nous a un petit peu estomaqué.
Donc, vous commencez à réfléchir.
Et donc, on commence à faire des rapprochements très simples sur Google entre donc Lucien Nachin, et ma mère m'avait juste dit que son père, après avoir quitté la carrière militaire, avait été directeur de la RATP. Texto. Hein.
Qui s'appelait à ce moment-là...
Mais elle m'avait dit RATP, mais je ne m'étais jamais posé de question. Donc, on a fait des recherches très rapides, et c'est très rapide à faire, hein, de trouver que la RATP n'a été créée qu'en 1948. Enfin, voilà. Et donc, en fait, mon grand-père a été directeur du personnel de la société précédente, la RATP, la STCRP, voilà. La société des transports en commun de la région parisienne.
C'était un poste énorme.
Un poste énorme. Donc, il avait 25 000, jusqu'à 25 000 personnes sous ses ordres. C'est-à-dire que, voilà, comme un DRH actuel, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui décide de la qualité des services. Voilà, quelqu'un de vraiment central dans cette société. Et on découvre que cette société a été parmi les plus collaborationnistes pendant l'occupation, en étroite collaboration avec la préfecture de police, avec
toujours
la préfecture de la Seine, voilà, voilà. Mais un maillon totalement de l'histoire, à part, comme vous disiez très bien, on a tous dans la tête cette image du bus devant le Veldiv. Il y a quelques rares images de ces bus à plateforme où il y a des gens avec des gendarmes. Enfin, vraiment, les photos se comptent sur les doigts d'une main. Et par contre, effectivement, et avec raison, on a parlé beaucoup des wagons, de la déportation.
C'est ça, merci de le rappeler. En fait, c'est ça que je voulais dire, voilà. C'est qu'on a cette image de bus et point. Et après, on a les trains, etc.
Voilà.
Et même au mémorial de Drancy, c'est-à-dire même la mémoire nous rappelle les trains. C'est-à-dire qu'à Drancy, on voit un wagon. Il n'y a jamais eu de train à Drancy. Et ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu d'autobus. Les autobus ont été absolument...
Le relais.
Le relais est toute une organisation... très importante, puisque les chauffeurs d'autobus connaissaient Paris. Ils ont circulé, pas seulement pour la rafle du Veldiv, mais depuis le début de l'occupation jusqu'à la fin. Puis après, ils ont aussi servi à rapatrier les déportés qui revenaient des camps et les prisonniers de guerre, etc. Donc, en fait, les bus sont omniprésents. Et il n'est pas possible que dans une ville comme Paris, les gens n'aient pas vu les autobus. Et nous avons reçu des témoignages d'ailleurs assez touchants de lecteurs qui ont lu ce livre, pas seulement dans les milieux juifs, mais dans tous les milieux. Un monsieur qui a à peu près 90 ans et qui me dit, qui nous envoie un courrier en nous disant... J'étais collégien au collège Saint-Michel de Picpus, en face de l'hôpital Rothschild, qui était donc un lieu où les autobus allaient chercher les malades pour les amener à Drancy et les vieillards, etc. Et il me dit, et je me souviens des autobus qui partaient de l'hôpital Rothschild. Donc on se dit, c'est incroyable, c'est-à-dire par rapport à ce trou de mémoire, ce point aveugle dans l'histoire. Finalement, les trains, on les a vus quand on était près des gares, sur les lignes de chemin de fer, mais dans une ville comme Paris, tout le monde a vu les autobus.
Bien sûr.
Voilà. Et une centralisation, c'est-à-dire que voilà.
Vous dites que 95% des déportés, voilà. Oui, ont été convoyés, que ce soit des juifs, des résistants, etc.
Absolument.
95% sont passés par les bus.
Voilà, les déportés qui arrivaient de province, arrivaient dans les gares parisiennes, dans ces gares parisiennes, des bus les attendaient pour les emmener en Drancy. Ensuite, une fois à Drancy, ils reprenaient des bus pour aller soit à la gare du Bourget, soit à la gare de Bobigny, via les trains. Voilà. Donc, il y a une espèce de circuit qui a duré pendant 4 ans de manière incessante, en tout cas pour ce qui concerne la déportation. Donc, ça demande effectivement une organisation absolument incroyable, très précise.
Et que donc, Lucien Nachin connaissait
Lucien Nachin,
parfaitement, puisqu'il était...
Voilà. A absolument huilé, parce qu'il n'était pas question de déplaire aux Allemands, vu que cette société a profité de tout cela pour faire de gros bénéfices. Comme le service public était par terre, les gens ne prenaient plus le bus quasiment, il y avait... Voilà. D'ailleurs, ça serait une question à creuser un peu plus. Pourquoi, justement, c'est pas seulement la pénurie d'essence, tout ça. Donc, ils ont préféré déplacer tous ces services vers l'occupant allemand. mettant aussi à leur disposition tous leurs ateliers de réparation dans lesquels les machines, les blindés allemands étaient réparés. Enfin voilà, c'était, ils se sont vraiment mis au service. Donc c'est cette découverte totalement effroyable.
Voilà, revenons à votre découverte et vous, le petit-fils. Quand même.
Alors voilà, moi, le petit-fils, je tombe de très très haut.
Avec Malka qui est juive.
Avec Malka qui est juive, qui tout d'un coup me réoriente vers des... Voilà, on découvre des témoignages, on en relate quelques-uns dans le livre, qui sont à la limite du supportable, qui sont même insupportables à lire. Quand on parle d'enfants qui sont jetés comme des petites bestioles dans la cour de Drancy. Enfin voilà, donc tout de suite est venu, en tout cas pour nous deux, tout de suite... Que savait Nachin ? Donc, on rentre dans l'histoire du crime de bureau, c'est-à-dire ce type, voilà, qui est dans son bureau, qui est des Grands Augustins dans le 6e arrondissement,
qui fait le job.
Qui fait le job, qui planifie, qui envoie tel et tel bus avec tel et tel conducteur prêt à faire sa mission, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance dans cette société. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de faire le travail. Et là, ça s'est très mal passé pour eux. On en parle aussi dans le livre, avec des dénonciations venant de la direction du personnel. Et ils se sont retrouvés emprisonnés. Et certains sont morts à Auschwitz, en ayant emprunté des bus d'ailleurs.
Vous avez retrouvé un billet de Nachin dessus, d'ailleurs, non ?
On en a retrouvé beaucoup. On en a retrouvé beaucoup, c'est-à-dire...
Mais sur ça ?
On a retrouvé, effectivement, tous les ordres. Cette société, d'ailleurs, a également la STCRP, donc qui s'occupait des autobus, a même pris les devants par rapport à des ordres de Vichy avant même que les ordres ne soient donnés.
Voilà.
Et ça, c'est quand même...
Très important.
À la fois pour que le personnel signe des papiers disant qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils ne sont pas francs-maçons, qu'ils ne sont pas communistes, qu'ils ne sont pas déviants, qu'ils ne sont pas porteurs de maladies honteuses. Enfin, vraiment, il y a quelque chose une espèce de vision totalement hygiéniste qui va bien au-delà même de la politique extrémiste de Vichy. C'est d'ailleurs sur ces notes qu'un certain nombre de membres du personnel de la STCRP vont être poursuivis après la guerre pour l'épuration à cause de cet excès de zèle de la STCRP, excès de zèle avec ces notes signées par Lucien Nachin qui lui, a priori, ne va être que très peu inquiété.
Voilà. Il va être très peu inquiété, nous allons le voir. Mais revenons donc à votre enquête. Donc là, vous tous les deux, vous enquêtez. Vous faites une... Quand je disais Sherlock Holmes, c'est pour ça que le livre est absolument passionnant. Ce n'est pas du tout le énième livre théorique sur... Non, c'est vraiment une enquête sur un bonhomme. J'ai pensé un petit peu, permettez-moi de vous le dire, un petit peu à l'enquête de Modiano avec Dora Bruder.
Absolument.
Il y a ce truc un peu comme ça, fou, poétique temps. Bon, revenons à...
On a essayé justement de montrer, de décrire notre recherche et de notre évolution, aussi l'évolution de notre réflexion.
Et du sentiment.
Et du sentiment. Et qu'on se dit, on ne peut pas, avec un tel sujet, ne pas être entre guillemets sérieux. C'est-à-dire que donc, on s'est plongé dans les archives existantes, notamment de la RATP, de la préfecture de police, où il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de choses aussi qui manquent, qui ont disparu, sans doute depuis longtemps, qui ont été... on va dire
nettoyer. D'accord.
Hein. Mais avec tout cela, on a repris aussi, sans aucune prétention, le travail des Klarsfeld, c'est-à-dire à force d'éléments qui se recoupent, on arrive à reconstituer une histoire. On arrive à reconstituer le fonctionnement de cette société de bus, comment tout ça fonctionnait. Donc c'est dans le livre et j'espère qu'on a réussi, je pense, à transmettre l'évolution de notre réflexion.
Oui, en fait, il y a trois moments, mouvements dans votre livre. Il y a d'une part, effectivement, la RATP, enfin, ancienne STCRP, c'est difficile à dire. Donc, comment elle a fonctionné pendant la collaboration, comment ça s'est passé, ça s'est remarquablement fait. Le personnage de votre grand-père Nachin, dont on va reparler. Et puis, effectivement, alors, le troisième mouvement, c'est les rafles et tout ce que vous dites sur les rafles et la façon dont ça se passait dans ces bus-là. Donc revenons à l'homme lui-même, à Nachin. Comment est-ce qu'on peut être copain avec De Gaulle, C'est ça aussi, votre livre qui est dingue.
C'est une folie.
Il y a trois personnages. Il y a De Gaulle, il y a votre grand-père et il y a Maillère. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? On va raconter l'histoire, mais je crois qu'on est vraiment dans une période.
Il y a une semaine, il y a eu ce film excellent de Michael Prasant qui est passé sur France 3 et qui montre
qui
bien...
Qui repasse ce soir, je crois. Hein.
Voilà, ouais. Qui montre bien les mécanismes du déni, qui s'appelle
Vichy, la mémoire empoisonnée.
Et donc on voit bien comment sur plusieurs générations s'infiltre ce déni, ce silence, et combien finalement il est porteur de questionnements par rapport à la période que nous vivons actuellement, y compris dans la manière dont on réhabilite un certain nombre de personnages, et notamment cette vision totalement mythique du général de Gaulle.
Alors, revenons à De Gaulle et Nachin.
Voilà, et c'est vrai qu'on a, comme le dit Malka, c'est vrai qu'on a aussi voulu se projeter dans la période actuelle sur les fondements de la Ve République, sur cette période où la France se pose des questions sur sa structure, sur... Et je pense que c'est vraiment... Nous pensons que ce sont vraiment une caisse de résonance, tous ces problèmes qui n'ont pas été résolus. Et que, il y a encore des écoles différentes pour traiter de cette période de l'occupation. On parle de période sombre, on parle de période noire. Comme ça, ça permet de bien, de bien étouffer les choses.
Donc, Nachin et De Gaulle.
Alors, Nachin
il est copain avec De Gaulle.
Nachin, ils se connaissent depuis les années 20. Même Nachin sera son professeur... quand De Gaulle se perfectionne après Saint-Cyr, et ils deviennent vraiment potes.
Le fils du général De Gaulle dit même que Lucien Nachin est le seul vrai ami du général.
Ouais, il le blanchit complètement, lui. Hein.
Donc ils se suivent. Alors, ce qu'on l'a évoqué dans le livre, c'est, je pense, aussi une amitié... militaire, c'est-à-dire une amitié entre hommes, entre militaires, c'est-à-dire une espèce de fidélité, évidemment doublée du fait, ça c'est pas nous qui le faisons découvrir, que De Gaulle et la question juive reste une grande question. Mmh. C'était vraiment pas.
On n'a pas le temps malheureusement. On n'a pas le temps de l'aborder.
Ah, c'est un peu voilà. Mais on tient absolument à appuyer là-dessus, parce que ce n'est pas le énième livre, comme vous dites, sur la collaboration, etc. Là, on parle d'un collaborateur qui est sans doute le meilleur ami du général de Gaulle, qui est impliqué dans un maillon oublié de la solution finale en France. Et voilà, donc c'est une espèce de... Tout ça doublé avec notre histoire personnelle, qui, comme Malka, des membres de sa famille
ont pris les bus, sont morts à Auschwitz.
Enfin, vous voyez, donc, et moi qui viens d'une famille catholique, qui suis métisse, voilà, donc il y a une espèce de croisement de destin.
Prochain livre.
Mais le personnage dont vous avez parlé
dans votre livre, et c'est pour ça que je parle d'un trio, il y a Nachin, il y a De Gaulle,
et il y a le colonel Maillère.
Le colonel Maillère est un personnage
tout à fait passionnant. D'abord, c'est quelqu'un, une forte tête, quelqu'un qui a été rejeté de l'armée au moment de l'affaire Dreyfus, qui, quand je dis forte tête, c'est-à-dire une grande personnalité, il est issu de cette bourgeoisie très éclairée, juive de la fin du 19e siècle. Son gendre est Paul Grunebaum-Balin, qui a été un des rédacteurs de la loi 1905. Donc c'est véritablement ces juifs très intégrés, très porteurs de cette vision de la République, et proche de Léon Blum, et donc, dès 1914, le colonel Maillère commence à critiquer la stratégie militaire de l'armée française. Et donc, son ami Lucien Nachin, qui est beaucoup plus jeune que lui, avec qui il s'entretient de tout ça, va en parler au général de Gaulle. Enfin, à Charles de Gaulle, qui est à l'époque un de ses amis, et Charles de Gaulle, qui n'a pas accès à ces milieux israélites éclairés, plutôt de Gauss, on sait que de Gaulle, à l'époque, est plutôt maurrassien, rêve de rencontrer le colonel Meyer. Et c'est par l'entremise de Lucien Nachin que Charles de Gaulle va rencontrer le colonel Meyer, qui va devenir le mentor de de Gaulle. Heureusement pour le colonel Meyer, Émile Meyer, celui-ci meurt en 1938, c'est-à-dire avant la solution finale, avant l'occupation, et il va remettre une partie de ses affaires, enfin Paul Grunewald, à Lucien Nachin. Et c'est aussi l'histoire de ces objets qui disparaissent que nous avons voulu intégrer dans ce livre, ces questions que l'on peut se poser sur des enrichissements personnels, puisqu'il est évident que Lucien Nachin, qui venait d'un milieu modeste, qui était un petit militaire, a laissé une grande fortune après, et on se pose aussi beaucoup de questions sur sa fortune.
Dans ce tissage grande histoire, petite histoire, en permanence, qui fait la richesse et la beauté de votre livre, à un moment, Malka ne supporte pas ce miroir qu'il y a dans la famille. Ce miroir Absolument. Dont elle pense qu'il est Meyer, ce miroir. Il est peut-être ça, il est peut-être volé. C'est juste insupportable.
C'est juste insupportable. Et on demande à son arrière-petite-fille que l'on retrouve. Et elle-même n'a pas de souvenir ni de photo de l'appartement de son arrière-grand-père. Donc on est vraiment dans l'oubli de cette spoliation.
Alors, déni.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Marie, par l'entremise des souvenirs de sa mère, qui était petite fille et qui allait chez le colonel Meyer dans les années 30, et qui lui décrivait l'appartement du colonel Meyer, en revanche, l'arrière-petite-fille, dont tous les meubles ont été spoliés, ne sait même pas à quoi ressemblait l'appartement de son arrière-grand-père. Donc c'est assez étonnant comment c'est Jean-Marie qui va lui restituer cette mémoire à travers les souvenirs de sa mère, alors même que ce pan a disparu, est un lieu aveugle.
Et votre enquête, elle montre quand même, enfin votre livre montre quand même toutes les ambiguïtés absolument incroyables de la France 60 ans après. C'est pas les fils qui font les enquêtes, c'est les petits-fils qui font les enquêtes. Ouais. On l'a vu avec Alexandre Jardin, absolument. Par exemple. Ça, c'est quand même très, très intéressant. Et vous, j'ai juste envie de vous demander de conclure, parce que je suis, moi, tout à fait fan de votre livre. Et je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous aviez envie de qui vous aviez envie de toucher avec ce livre?
On avait envie de toucher la société française de 2016. De parler de rencontres de différents milieux, de différentes sensibilités, et de la différence, des différences que l'on a sur l'histoire, du coup. Donc voilà, un couple très mixte, qui se trouve confronté à l'histoire avec un grand H. Donc c'est un peu ça qu'on a voulu faire, et surtout aussi montrer que c'est encore difficile de faire des recherches sur cette époque en France au début du XXIe siècle. Les archives sont quand même pas toutes ouvertes du tout. Et puis, dès qu'on se penche dans ces archives, on voit qu'il y a des manques énormes. Et là, on ne saura sans doute jamais de quelle manière ces manques ont été créés.
Et puis, je voudrais dire, on avait besoin de on ne pouvait pas ne pas dire, on ne pouvait pas garder ça pour nous. Cette petite histoire fait partie de la grande histoire, donc il fallait qu'elle soit dite. Et nous avions aussi besoin de dire la manière dont certains ont réagi à cette enquête, qui nous ont dit « mais arrêtez », c'est-à-dire qui ont eu des attitudes comme Pompidou, « on ne va pas encore remuer tout ce passé, vous allez vous faire du mal, écoutez, c'est une vieille histoire, et puis finalement les bus, qu'est-ce que c'est rien ». C'est rien par rapport...
C'est un détail
dans le détail. Et donc nous, on s'est dit « non, ça n'est pas possible ». Pour les générations suivantes, pour nous, on ne peut pas laisser ce type de trou de mémoire perdurer.
Oui. À l'heure où la Shoah est si difficile à enseigner dans les écoles, j'espère que vous allez être invité, que vous allez pouvoir apporter votre contribution à ce petit détail qui est juste les bus. Moi, depuis votre livre, j'arrive pas à prendre le bus normalement. J'y pense C'est un déclic. Bon, pourtant, je ne suis pas... mais voilà, c'est un déclic. Je me dis, ah bon, le bus. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu nous en parler. J'espère qu'on a donné envie à tout le monde de se précipiter sur ce livre qui s'appelle « Les bus de la honte ». Ça vient de sortir chez Talendier. C'est Jean-Marie Dubois et Malka Markovitch. Et voilà, encore une page ouverte sur... cette période si noire avec laquelle on n'a pas fini. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.